D'accord. Alors, on est à la page 158, à la ligne 24. Virginie, est-ce que tu voudrais lire? Attends, un instant. Om namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Suis le Prabhupada qui?
Jai.
Jai. Alors, s'il vous plaît.
Alors, je prends juste la page 157, 158, ligne 24.
Ouais, c'est ça.
OK. De plus, c'est aussi une très bonne économie. Si vous avez des ustensiles en métal, si vous avez besoin d'argent, vous pouvez obtenir immédiatement de l'argent en échange. Il y a des prêteurs sur gage. Ils garderont n'importe quoi, un sari banarsi en or ou des ustensiles en métal ou des ornements si vous avez besoin de les banquiers du village. Immédiatement. Pauvre homme, supposons que vous ayez besoin de 5 roupies, 10 roupies. Vous n'en avez pas. Mais comment? Comment obtenir de l'argent? Vous prenez quelque chose de votre attirail domestique et vous allez chez le prêteur sur gage, vous obtenez de l'argent. Vous êtes maintenant libéré de votre problème immédiat. Puis, à nouveau, vous revenez. Mais qu'est-ce que cette porcelaine, cette argile, ces pots en porcelaine et ce pot en plastique vont vous rapporter? Absolument rien. D'un point de vue économique, c'est aussi très bon. Par conséquent, il faut savoir dépendre de la nature. Lecture. Plus nous continuerons à multiplier ces troublantes industries pour presser l'énergie vitale de l'être vivant, plus il y aura de troubles et d'insatisfaction. C'est terre à terre. Du peuple en général, bien que seulement quelques-uns puissent vivre somptueusement de l'exploitation d'autrui. Ainsi, notre mouvement pour la conscience de Krishna est universel. Si les gens comprennent qu'il s'agit d'un mouvement religieux, non, un mouvement religieux, c'est autre chose. Le mouvement pour la conscience de Krishna n'est pas basé sur des inventions de notre part. Les paroles de Krishna dans la Bhagavad Gita sont faites pour rendre les gens conscients de Krishna à tous égards. Il indique comment vivre. Anad Bhavanti Bhutani, Bhagavad Gita 3.14. Comment la société devrait être répartie. Chatur, Varnyam, Maya, Shrishtyam, Guna Karma, Vibhagasha, Bhagavad Gita 4.13. Il touche à tout. Les côtés social, politique et la politique aussi. Il motive Arjuna. Tu dois te battre. Ils ont fait preuve de tant d'injustice à ton égard. Tu dois donc te battre. Ne considère ni frère ni autre. Même après qu'Arjuna eut dit, oui, c'est bon, je me battrai avec mes ennemis, mais comment pourrais-je tuer Bhishma Deva? Il n'est pas mon ennemi, il me soutient, c'est mon grand-père. Nous avons perdu notre père à un âge précoce, il s'est occupé de nous. Comment pourrais-je le tuer? Comment puis-je tuer mon maître Dronacharyam? Mais Krishna gardait le cap. Tu dois les tuer. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris le mauvais parti. Parce que Bhishma Deva, bien qu'il soit devenu si savant, a quand même pris le parti de Duryodhana. Et ce, simplement pour obtenir un peu d'argent, une pension. Et en fait, Bhishma Deva est allé du côté de Duryodhana en considérant que ces gens m'entretiennent. Comment pourrais-je renoncer à leur compagnie en cas de danger? C'est aussi une autre considération. Et de la même façon, Dronacharya, bien qu'il soit gourou, professeur d'art militaire, il est aussi allé du côté de Duryodhana pour l'argent. Même chose, Karna. Personne n'est venu de ce côté. Donc Krishna rendait justice. Enfin, c'est ça la politique. Du tac au tac, la politique le veut ainsi. Chaté, chatiam, mat. Charé, Chanakya Pandita dit, si quelqu'un est Sata signifie très rusé, alors tu dois être aussi rusé. C'est ce qu'il en est de la politique. Vous ne devez pas être à ce moment-là un brahmana et vous montrer libéral. Non, l'idée est donc que dans la Bhagavad Gita, Krishna enseigne tout de manière très juste, de façon très correcte. Toute la littérature védique est faite pour cela, pas d'un seul point de vue biaisé. À présent, c'est Kunti qui parle à Krishna sur la manière vivre pour les gens en général. Comment? Par l'association de Krishna. Les gens seront heureux. Comment ils vivront heureux dans les villes? On trouve description de ces choses. Nous devrions donc toujours nous rappeler que ce mouvement de la conscience de Krishna vise le développement global de la société humaine. Ce n'est pas un mouvement religieux sentimental. Si les gens l'acceptent, il est fondé sur les enseignements de Krishna, sur les enseignements du Bhagavatam. Tout y est traité. Donc, plus le mouvement grandit, ou plus il prend de la force, plutôt, parce que nous sommes maintenant faibles, les gens ne comprennent pas le sérieux de ce mouvement. Mais plus nous gagnons en force et en volume, plus nous devons prendre part à toutes les activités de la société humaine afin de voir à son bien-être. Sarve Sukhino Bhavantu. Telle est la culture védique. Cette culture védique veut que tout le monde soit heureux et tel est le désir d'un Vaishnava. Vaishnava para dukkha dukhi dukhi. Un Vaishnava ne souffre de rien car il a Krishna. Yam ladvam chaparam labam manyate nadikam tata. Bhagavad Gita 6.22. Pour celui qui a obtenu Krishna, comment peut-il être malheureux? Et comment peut-il manquer de quoi que ce soit? Bien que rien ne l'afflige vraiment, il est tout de même malheureux de voir les autres, ces prétendus crapules, qui du fait d'avoir oublié Krishna, se trouvent à souffrir. Un Vaishnava est malheureux de voir le malheur de ces gens, tel que le dit Prahlada Maharaj en adressant ses prières au Seigneur Nishimadev. Socetato vimukha cetasa. Je pense, je me préoccupe seulement des pécheurs insensés qui, vous ayant oublié, échafaudent tellement de projets aussi merdiques qu'inutiles en vue d'obtenir le bonheur matériel. Maya, Shukayabaram, Udvahato, Vimudan, Srimad Bhagavatam 7.9.43. Ils veulent être heureux en inventant un instrument pour se raser aussi. Vous voyez, l'attention est détournée au point que pour se raser, ils veulent un instrument. Pour se brosser les dents, ils veulent un instrument. Cela signifie donc que l'intelligence est mal utilisée. Leur intelligence est mal utilisée. Par conséquent, le devoir d'un Vaishnava est de mettre même tout ce qu'il pourrait avoir découvert au service de Krishna et de leur apprendre à faire de même. Neobanda Krishna-san, Anashaktasya, Vishyayan, Yataram, Upayun, Anashaktasya, Vishyayan, Yataram, Upayun, Jata. Notre politique est que nous utilisons ce microphone. Ce n'est pas que s'il n'y a pas de microphone, nous allons arrêter de parler ou de prêcher. Non. Nous n'avons aucune attirance pour ce microphone. Mais s'il y a un microphone, nous en profitons pour répandre la conscience de Krishna avec Anashakta. Telle est la formule donnée par Rupa Goswami.
Et saute le sanskrit, s'il vous plaît.
D'accord. Quelqu'un pourrait dire, si vous condamnez la civilisation matérielle, pourquoi vous en servez-vous? Cela ne veut pas dire que nous y sommes attachés. Mais s'il y a quelque avantage pour la propagation de la conscience de Krishna, nous pouvons l'utiliser. Nous pouvons utiliser une invention moderne, mais nous ne nous sommes pas attachés à celle-ci. Ce n'est pas que sans elle, nous allons nous effondrer. Non, ce n'est pas notre façon de voir. Nous pouvons faire avec et sans. Quand nous l'utilisons, c'est pour le bien de la personne qui l'a inventé, son énergie et celui qui a inventé ce microphone, Son énergie est utilisée pour la mission de Krishna. Ainsi, tout s'enchaîne dans le service de Krishna. Donc, sans Krishna, nous ne pouvons être heureux. Telle est la juste conclusion, et c'est ce qui est énoncé ici, à savoir que tout s'épanouit grâce à ta présence. Et comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, nous pouvons garder Krishna toujours présent en étant conscient de lui. Alors tout sera beau, nous serons heureux, que ce soit en ville ou dans la forêt, partout. Merci beaucoup. Hare Krishna. Fin.
Jai, Jai, merci
Jai.
beaucoup. Allez, bon,
Aribol.
Jai,
C'est
Jai.
magnifique à lire, c'est magnifique.
Oui, c'est une superbe classe de Srila Prabhupada.
Waouh, c'était magnifique.
Ouais. Alors, Omigyana Timirandasya Gyananjana Sadakaya Chaksurun Militam Nyena Tasmai Shri Gurave Namah Srila Prabhupada Ki Jai. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Je peux rajouter que Prabhupada était visionnaire, parce que quand il nous parlait au début des années 60, tout ça, il disait d'être indépendant et tout ça, et de pas être dans la matière, tout ça. C'est vraiment qu'est-ce qui arrive en ce moment. On n'a plus de principe. Le monde va voter pour l'argent et le confort à la place de la liberté. Alors, c'est vraiment le chaos. Même la bouffe est pas bonne. C'est comme, il était très avant-garde. Il savait déjà qu'est-ce qui allait arriver. Il nous prévoyait de tout ça.
Ouais,
Prabhupada.
exactement. Et il nous a déjà même averti en ce qui concerne l'âge de Kali, jusqu'où va aller l'âge de Kali, que combien d'années restent à l'âge de Kali. Et dans ses livres, les signes de l'âge de Kali sont décrits aussi. Et, les signes de l'âge de Kali sont décrits dans le Srimad-Bhagavatam, en particulier dans le 11e chant. Et Prabhupada cite justement des versets du 11e chant en ce qui concerne l'âge de Kali. Alors, comment on peut dire, ça nous éclaire sur les tendances qu'il y a dans l'âge de Kali. Et ça nous fait rester conscients de Krishna. Alors, l'idée de la conscience de Krishna, comme c'est dit ici par Srila Prabhupada, le mouvement de la conscience de Krishna, ce n'est pas, comment il dit ça, là? Ce n'est pas un mouvement religieux. C'est ça. Alors, il dit, si nous devrions, c'est à la page 159, ligne 26, nous devrions donc toujours nous rappeler que ce mouvement de la conscience de Krishna vise le développement global de la société humaine. Ce n'est pas un mouvement religieux, sentimental. Si les gens l'acceptent, il est fondé sur les enseignements de Krishna, sur les enseignements du Bhagavatam. Tout y est traité. Donc, plus le mouvement grandit, ou plus il prend de la force, plutôt, parce que nous sommes maintenant faibles, très, les gens ne comprennent pas le sérieux de ce mouvement. Mais plus nous gagnons en force et en volume, plus nous devons prendre part à toutes les activités de la société humaine afin de voir à son bien-être. Alors ça, c'est le plan global du mouvement pour la conscience de Krishna. Jusqu'où peut aller le mouvement? Ben, c'est, comment on peut dire? Partout où il y a la société, ben, partout peut aller le mouvement de la conscience de Krishna. C'est aussi simple que ça. Dans tous les domaines. Et qu'est-ce qui fait la différence entre la présence du mouvement pour la conscience de Krishna et son absence? Ben, justement, c'est Krishna. Il y a des gens qui sont conscients de Krishna, puis d'autres qui ne le sont pas. Mais comme Prabhupada dit ici, c'est fondé sur les enseignements de Krishna. Alors, les enseignements de Krishna, c'est la philosophie. C'est toute une autre conscience. Alors, Comment, par exemple, dès le départ, dans ce que nous avons lu aujourd'hui, Prabhupada met en relief l'hésitation d'Arjuna de tuer son maître d'armes, Dronacharya, ou de tuer son grand-père, Bhishma Dev. Mais Krishna, lui, regarde sur quel côté ils se sont rangés. Et c'est loin d'être sentimental, ça. S'ils sont du mauvais côté, point final, ils méritent d'être tués. Alors, c'est ça, des fois, la conscience de Krishna, c'est vraiment coupé au couteau, là. C'est très, très, très tranchant. C'est soit c'est noir, soit c'est blanc. Oui, vas-y.
Comment on met ça en pratique aujourd'hui avec que Arjuna voulait pas tuer les ceux qui connaissent la famille et tout ça. On me dit toujours d'être tolérant, forgiveness de tout ça. C'est où est-ce qu'elle est la ligne? Je vais faire le changement là.
Ben, la ligne, elle est, c'est ça, dans ce qu'on a lu aussi. Prabhupada, il dit, la conscience de Krishna, c'est très terre à terre. C'est pour faire preuve de jugement. Disons, intérieurement parlant, on peut être conscient de Krishna et avoir tout un système de valeurs. Et extérieurement parlant, peut-être que ça ne paraît même pas. Comme parfois, Prabhupada parle dans le Srimad Bhagavatam, parfois, des purs dévots de Krishna sont semblables à des hommes ordinaires. Les gens ne le savent pas. Mais pourtant, ce sont des purs dévots de Krishna.
Alors, c'est de tuer notre mental. C'est de tuer nos problèmes, nos démons, je sais pas comment, dans le mental. Parce que
Le mental a beaucoup à voir avec la, disons, si on peut dire. Le mental reflète la conscience. Alors, la conscience, elle, c'est où est-ce que va se fixer le mental? Mais le mental, il se fixe quelque chose en fonction de la conscience de l'individu. Mais la conscience de l'individu, elle est, comme Prabhupada dit souvent, elle est contaminée par la matière. Elle est contaminée par le matériel. Et Prabhupada dit comment qu'elle est contaminée. Il dit, c'est comme quelqu'un qui a une maladie infectieuse. Il est contaminé. Alors, contaminé à quoi? Contaminé aux trois gunas de la nature matérielle. Soit il y a des gens qui sont plus vertueux, d'autres dans la passion et l'ignorance. Mais la majorité, et on devrait se compter soi-même dans la majorité, que c'est sous l'influence de la passion et de l'ignorance qu'on est dedans. Alors, quel est le remède? Le remède est très simple. Le remède est donné par le Seigneur Chaitanya. Le remède est donné par le Srimad Bhagavatam, à savoir, il faut écouter de la bonne source ce qui a trait à Krishna. Écouter les propos d'une âme réalisée. C'est ce que le Seigneur Chaitanya recommandait à Ramananda Roy. Ramananda Roy, le Seigneur Chaitanya disait, quel est le plus haut but pour l'être humain? Quel est le but le plus élevé? Et Ramananda Roy a dit, c'est le Varnashram, c'est le ci, le ça. Puis finalement, le Seigneur Chaitanya, à chaque fois, il disait non. Mais le Seigneur Chaitanya posait tout. Après chaque explication, le Seigneur Chaitanya disait, mais qu'est-ce qu'il y a de plus élevé encore? Et là, à partir du moment où Ramananda Roy répond au Seigneur Chaitanya que c'est d'écouter ce qui a trait à Krishna auprès du Dharma réalisé. Ah, là le Seigneur Chaitanya dit oui. Ça c'est. Mais il a ensuite demandé, mais qu'est-ce qu'il y a de plus élevé? Et ainsi de suite, jusqu'au but ultime, qui est de développer son amour de Radha et Krishna. L'amour de Dieu complet comme ça. Alors, La conscience de Krishna aussi, c'est quelque chose qui ne peut pas être compris par beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens et une explication à ça. Qu'est-ce qui empêche les gens de comprendre la conscience de Krishna? Quelle est la réponse?
L'attachement au monde matériel, ils ne sont pas attachés à Krishna. Alors, ils ne comprennent pas Krishna parce qu'ils sont attachés au monde matériel. Tous les plaisirs des sens et tout ça sont emboutis dans ce spirale d'identité matérielle.
Oui, ça c'est un côté. Mais disons, encore une fois, terre à terre, qu'est-ce qui les empêche de comprendre Krishna?
Désir, il n'y en a pas.
Il y a ça. Mais qu'est-ce qui contribue à tout ça?
Manque de connaissances sur Krishna, ils ne savent pas trop.
Oui. Alors, Prabhupada explique ça dans une classe. Prabhupada dit, ce sont des activités pécheresses. Prabhupada dit, c'est pourquoi nous demandons à nos disciples, à nos membres du mouvement, d'abandonner les quatre activités pécheresses, le sexe illicite, les jeux de hasard, l'intoxication, et puis, quoi d'autre, manger la viande, consommation de chair animale. Alors, et Prabhupada dit, tant qu'on est impliqué dans ces activités pécheresses, on ne peut pas comprendre Krishna. La conscience est voilée. Si on comprend Krishna, qu'est-ce qui va arriver? Prabhupada explique. On va aimer Krishna. Mais si on fait des activités que Krishna n'aime pas, comment est-ce qu'on peut prétendre ou penser qu'on va aimer Krishna? On est en train de faire le contraire de quelque chose qui va déplaire à Krishna. Alors c'est impossible. Alors, parmi les premières choses qu'il faut faire, c'est justement d'abandonner les activités pécheresses. Ce sont les quatre piliers d'activités pécheresses. Ça, il faut abandonner ça. Et puis, accepter les quatre principes régulateurs. Et puis, à ce moment-là, comme Upadeshamrita dit, c'est comme ça qu'on peut progresser dans le service de dévotion sans entrave. Alors, si par exemple un dévot, pour une raison ou pour une autre, a un écart, son Prabhupada dit, il explique ça dans le Srimad Bhagavatam, que son progrès dans la conscience de Krishna peut être retardé. Alors, c'est pas la première fois et ce sera pas la dernière fois. Mettons qu'un dévot X, Y, Z peut avoir un écart et va le sentir que Krishna n'est pas content. Et la vie n'est pas pareille quand si Krishna n'est pas content de qui que ce soit ou d'un dévot en particulier. Et ça fait, disons, prendre conscience au dévot que la conscience de Krishna, c'est très sérieux et que c'est indispensable dans la vie d'un dévot. Alors, à partir de cette prise de conscience, un dévot va prendre les moyens pour se rectifier, pour corriger sa façon de faire et devenir conscient de Krishna, être plus conscient de Krishna. Alors, c'est comme ça. Et c'est pourquoi des dévots, s'ils entendent parler que tel ou tel dévot a eu des écarts, ben les dévots doivent pas critiquer outre mesure le dévot, mais être prêt à, disons, comment on peut dire, être compatissant envers le dévot. garder les mains et les bras ouverts à accueillir le dévot. Et c'est une attitude qui va de soi pour un Vaishnava, d'avoir la compassion envers tout être vivant. Et que faut-il dire d'envers quelqu'un qui a servi Krishna à un moment donné dans sa vie? Et c'est aussi simple que ça, là. C'est pas le mouvement de la conscience de Krishna. Ce n'est pas un mouvement où il y a cette philosophie. Si tu as péché, tu es condamné à l'enfer pour le reste de tes jours. Ça marche pas comme ça, là. Ça, c'est une philosophie qui, je sais pas d'où ça sort, mais c'est, comment on peut dire, c'est soi-disant que c'est bien religieux de penser comme ça. Je m'excuse, c'est pas plus religieux que rien. Parce que sous cette, sous cette critique-là, la porte est ouverte pour quelqu'un de, un, se penser supérieur, et lorsqu'on se sent supérieur, la porte est grande ouverte pour tomber de notre fausse supériorité. C'est les lois de la nature qui sont faites comme ça. Alors, c'est pourquoi il y a des activités, des qualités, par exemple, des êtres démoniaques qui sont décrits dans la Bhagavad Gita, l'arrogance, l'orgueil, l'intransigeance. Ce n'est pas des qualités qu'un Vaishnava devrait garder comme teinte sur son caractère. Alors, pour les Vaishnavas, pour les dévots, tout est fondé sur dans quelle proportion ils sont attachés, comme on parlait tantôt d'attachement, là. Bon, ben l'attachement dans la bonne direction, à savoir, parce que tout le monde va être attaché de toute façon. Comme Prabhupada dit, personne ne peut être sans attache. Tout le monde a des attachements. Mais où sont les attachements? C'est ça qui fait la différence. Alors, un dévot qui est attaché à écouter ce qui est le message de Krishna. Ça, c'est l'attachement est à la bonne place. Alors, ouais. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Oui, je voulais juste dire que par rapport à ce que tu disais, tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas le droit de juger qui que ce soit. Puisque tu disais des fois un grand dévot va se dissimuler entre guillemets sous les traits d'une personne tout à fait ordinaire. Et en fait, je pense que pour pouvoir dans les échanges qu'on peut avoir avec les autres, c'est le comportement. Un dévot, on le reconnaît à son comportement, à ses agissements. Voilà, c'est quelqu'un qui se prétend maître spirituel et puis qui va faire des choses qu'on sait qui sont pas bonnes. Ben il est pas il qu'il parle de Krishna ou pas, il est pas sur la voie, quoi, en fait. Donc, c'est les agissements, c'est toutes les qualités, justement, qui sont décrites dans la Bhagavad Gita, qu'un dévot doit refléter dans ses agissements. Donc, on sait, nous, même dans nos relations avec les autres, comment se comporter, parce que la plupart des gens qu'on croise, c'est pas des dévots, parce qu'ils ont des agissements comme va le monde, comme ceux que décrivait Srila Prabhupada un peu plus haut. Donc c'est à nous de savoir, d'avoir le discernement, de savoir de quel côté on est. Donc on est du côté de Krishna. Et donc si les gens, tous les autres qui sont pas du côté de Krishna, en fait, ils sont pas du bon côté.
Exactement.
Un peu comme le choix qu'avait Arjuna à faire et que Krishna lui dit non, ils sont pas du bon côté. Donc t'as pas à t'occuper de leur cas. C'est moi qui m'en occupe, en fait.
Ouais, exactement. Mais toujours
est-il. Tous les jours, on est sans te couper. Tous les jours, on est éprouvé dans les rencontres, dans les échanges, dans les. Et c'est vrai qu'il faut savoir toujours garder son discernement pour ne pas juger, parce que là, on peut prendre un peu de hauteur et c'est pas bon. Et savoir que ben, ce sont de toute façon un jour ou l'autre, ils rencontreront Krishna. Voilà, parce que Dieu est dans le cœur de chacun.
C'est ça. On fait, disons, c'est comme à deux niveaux notre façon de voir. Il y a le côté externe. À savoir, OK, ils sont pas abandonnés à Krishna, ils sont pas conscients de Krishna. Alors, c'est comme un no-no pour s'associer avec. Mais d'un autre côté, on sait qu'à l'intérieur, ils sont tous des parties, des parcelles de Krishna. Ils sont tous d'éternels serviteurs de Krishna, de par leur constitution d'âme spirituelle, qui est un fragment de Krishna. Et à ce niveau-là, comment on peut dire, c'est une joie pour un dévot juste d'observer, ah, voici une parcelle de Krishna. Alors, ça nous rappelle Krishna d'une façon ou d'une autre, mais c'est juste que il peut pas parler ben gros de Krishna avec une personne qui est oublieuse de Krishna, et il attend à savoir est-ce qu'il y en a quelqu'un dans la masse qui va être intéressé à écouter au sujet de Krishna. Et alors le dévot à ce moment-là, peu importe si la personne est soi-disant un non-dévot, ben le dévot lui peut la faire progresser pour qu'elle devienne un dévot dans une façon ou d'une autre, le temps que ça prendra. Et c'est aussi simple que ça. La prédication de la conscience de Krishna, c'est comme ça que ça se passe. Que des dévots, en quelque part, qui ont prononcé des paroles, et lesquelles paroles ont touché le cœur de certaines âmes conditionnées. Et disons, il y a des dévots qui peuvent raconter des histoires. Comment ils sont devenus dévots? Parce qu'ils ont entendu des dévots leur parler, ou des dévots qui ont fait des conférences. Et c'est comme il y avait une dévote à Paris. C'est ça, quand j'étais en France, au temple de Paris, il y a une dévote qui est devenue dévote le lendemain qu'elle a été à une conférence de Prabhupada à Paris. Alors, elle a entendu Prabhupada faire sa conférence, et le lendemain, elle a joint le temple, elle est devenue une dévote. Une dévote américaine qui est retournée aux États-Unis à un moment donné, mais toujours est-il que c'est juste à écouter Prabhupada. Et il y en a plusieurs comme ça, des dévots, dévotes qui ont été, mettons, à San Francisco, qui ont vu Prabhupada, à New York, la même chose, qui ont été aux classes de Prabhupada dans les débuts. Et juste savoir Prabhupada, écouter parler de Prabhupada, et ces dévots-là, excusez-moi, ces dévots ou dévotes-là, après, vu que c'était comme les premiers ou les premières dévots ou dévotes, des fois, il y avait la télévision qui venait les interviewer pour leur demander qu'est-ce que vous faites là, comment vous en êtes venus là, à devenir dévot ou dévote de Krishna. Puis là, ils vont parler de Prabhupada. Et là, vu qu'ils font un film, ils sont capables d'aller chercher des images de Prabhupada, et puis des discours, des paroles de Prabhupada, tout racoler ça ensemble, et faire un film avec. Alors, il y a un film comme ça. Je me souviens plus du nom en anglais, là. Mais même ici, à Montréal, et dans les années 80, l'ONF, l'Office national du film, ils ont fait un film qui s'appelle Les Adeptes. Avez-vous déjà vu ce film-là? Les Adeptes. Moi, je suis dans le film. Je suis le Bhakta leader qu'on appelle, qui rase la tête des nouveaux. Des interviews, un garçon, une fille qui viennent de se joindre, devenir dévots. Ça fait à peine quelques semaines. Et puis, ils sont dans le film comme tel. Et puis, c'est comme ça. Donc, comme moi, personnellement, j'étais inspiré à m'intéresser à la conscience de Krishna parce que j'ai entendu des dévots parler à la télévision un soir. Et ils ont à Radio-Canada, ils ont interviewé des dévots qui chantaient au carré Saint-Louis, à Montréal. Et là, ils demandent aux dévots, qu'est-ce que vous faites? Puis le dévot, il dit, on chante les saints noms de Dieu. Et c'est dit que si on chante les saints noms de Dieu parfaitement, on peut réaliser la vérité absolue. Moi, j'entends ça, et tout de suite, ça a cliqué. Je me demande, ben, moi, je suis né dans une famille catholique. C'est quoi ça, ces saints noms de Dieu-là? Je sais pas. Alors, ça m'a mis la puce à l'oreille. C'est quoi ces saints noms de Dieu que je ne connais pas? Mais pourquoi je devrais pas les connaître non plus? Alors, de fil en aiguille, je me suis intéressé au dévot. Alors, un mois plus tard, bang bang, j'ai rentré dans le temple de Montréal pour être un dévot. Et ça aussi, c'est le fruit d'activités pieuses. Ça aussi, Prabhupada explique ça. Que pour être un dévot, de un, il faut abandonner les activités pécheresses. De deux, il faut avoir une accumulation de réactions d'activités pieuses qui vont entrer en ligne de compte, qui fait qu'une personne va accepter de s'engager dans la conscience de Krishna, pratiquer le bhakti yoga. Alors tout ça, ça va ensemble. C'est une suite logique. Que si quelqu'un obtient un goût pour les activités spirituelles, ce goût-là va augmenter. Et d'une façon naturelle et logique, qui fait que la personne, à un moment donné, va simplement aimer ça et va vouloir faire que sa vie devienne consciente de Krishna. C'est aussi simple que ça, là. Et ça, c'est pas une question de religion, c'est pas une question de ma foi, ta foi religieuse, c'est une chose, ma foi religieuse, c'est une autre chose. Puis moi, je me tiens juste avec quelqu'un qui a le même genre de foi religieuse. Non, ça transcende la foi religieuse ordinaire. C'est au-delà de ça. Parce que c'est au niveau de l'âme spirituelle, c'est l'âme qui finalement, qui cherche Krishna depuis toujours. Finalement, elle obtient Krishna, de s'engager au service de Krishna. À ce moment-là, elle est comblée. Oui, oui, question.
Oui, je voulais juste, tu me corriges si je dis quelque chose qui est faux, mais c'est une science, la science de la bhakti. Ça dépasse les mouvements religieux, en fait, puisque c'est la science de la bhakti.
Oui, effectivement. Le bhakti aussi, c'est dit, c'est bhakti yoga. Hein, c'est le système de yoga le plus élevé.
Voilà.
Que tous les systèmes de yoga, c'est une petite marche, comme un escalier, il y a différentes marches pour monter à la marche la plus haute. Finalement, quelqu'un arrive au bhakti yoga. Mais même dans le bhakti yoga, on peut dire, il y a beaucoup de marches, parce que le service de dévotion à Krishna est pratiqué par différents niveaux de dévots. Il y a des dévots néophytes, des dévots intermédiaires et des dévots du plus haut calibre, qui sont des purs dévots, des âmes libérées. Et tous s'engagent dans des activités dont Krishna est le centre. Essayer de faire plaisir à Krishna. C'est les activités des dévots de Krishna. C'est un service d'amour. Ou du moins, apprendre à aimer Krishna. À être fidèle à Krishna. Et dans un cas comme par exemple le cas d'Arjuna, ben, lui, tout est proportionnel. C'est des activités qui vont jusqu'au combat des ennemis. Pourquoi? C'est pas la décision de Krishna. C'est la décision, je veux dire, pas la décision d'Arjuna, c'est la décision de Krishna. Et Krishna avait une mission quand il est venu sur Terre, séparer les mauvais éléments des bons éléments et établir ses dévots au pouvoir pour justement faire que la société soit heureuse sous la gouvernance des dévots comme les Pandava. Et ce que nous avons lu, cette classe de Prabhupada, c'est la Reine Kunti, qui est la tante de Krishna, qui décrit justement comment est devenue la société due simplement à la présence de Krishna. Juste le fait qu'il soit là. Alors, comme aujourd'hui, c'est la fête de Krishna, l'apparition de Krishna sur Terre. Et c'est décrit dans le Srimad Bhagavatam, le livre de Krishna, à savoir, quand Krishna est venu, avant qu'il vienne, avant sa venue même, tous les astres se sont positionnés de façon à créer une atmosphère des plus, comment on dit, de bon augure. Il régnait une atmosphère de paix. Tout était paisible et finalement, Krishna apparaît et il apparaît où il veut, quand il veut, de la façon qu'il veut et il n'est pas lié à prendre une naissance ordinaire comme un enfant naît du sein de sa mère. Krishna n'est pas apparu comme ça. Il est apparu dans sa forme majestueuse à quatre bras de Narayan. Et son père et sa mère l'ont vu. Et sa mère en particulier, Devaki, pensant que Kamsa veut tuer tous les enfants nouveau-nés. Alors, elle lui demande de devenir comme prendre une forme humaine d'un enfant ordinaire. Et aussitôt, Krishna prend la forme d'un petit bébé bleu. Et dont les parents doivent prendre soin. Mais même à ça, Krishna va pas rester dans la prison de Kamsa. Sous l'influence de Yoga Maya, son père, il y a comment on peut dire, une déclaration prophétique. Qui s'est fait entendre de prendre l'enfant, de sortir de prison, puis l'amener à Vrindavan et échanger. À ce moment-là, quand Krishna est né, Maya Soda aussi a eu une fille. Et il y a eu un échange de Krishna pour la fille de Nanda Maharaj, qui était Yoga Maya, en fait. Et lorsque Kamsa est venu à la prison pour voir l'enfant qui était nouveau-né de Vasudeva et Devaki, lui, il sait pas là, que l'enfant a déjà été changé. L'enfant qui va le tuer dans le futur. Le huitième enfant de Vasudeva et Devaki. Il sait pas, lui, il est déjà parti. Alors, il a voulu tuer comme il avait fait auparavant. Il a voulu tuer cette petite fille. Puis là, Kamsa est tellement, tellement, donc, comment on va se permettre de dire, tellement con. Il voit, ah, c'est pas un garçon. C'est une fille qui est née. Puis là, sous les conseils de ses mauvais, ses associés, ses mauvais compagnons, lui conseillent de même éliminer cet enfant-là. Alors, il revient, il veut tuer cette petite fille-là, la prend des bras de Vasudeva, et il veut la tuer comme il a fait avec les autres, prendre l'enfant puis le lancer par terre, sur le ciment ou quelque chose, la brique ou whatever. Mais l'enfant s'est envolé dans les airs. Alors, quel tournant d'événements. Et l'enfant dit à Kamsa Que tu es stupide. L'enfant qui doit te tuer est déjà né. Bonsoir. Elle est partie. Et à partir de ce moment-là, Kamsa ne pensait qu'à Krishna. Continuellement. Il voyait Krishna partout. Comment on peut dire? Il voyait Krishna dans sa soupe. Il avait de la misère à manger. Alors, il le voyait partout.
C'était une obsession pour lui, en fait. C'était obsession.
Ouais. Une heureuse obsession, mais pour lui, c'était malheureux.
Ah, c'était un enfer.
Alors, comme Prabhupada dit, la conscience de Krishna, c'est en plein ça. Penser à Krishna tout le temps, mais pas de façon défavorable. Alors, comme ça, lui, ça, il était conscient de Krishna, mais dans le but de tuer Krishna. Mais la conscience de Krishna, c'est le contraire. C'est penser continuellement à Krishna dans le but de servir Krishna, aimer Krishna, faire plaisir à Krishna. Ça, c'est la bhakti. C'est un élan d'amour de l'âme spirituelle à l'égard de Krishna. Et Krishna, qu'on soit, comment on peut dire, qu'on l'accepte ou que l'on n'accepte pas, est toujours le centre pour tous les êtres vivants. C'est une question de réalisation, simplement. Est-ce que des questions, des commentaires? OK. Alors, on va continuer la lecture. Est-ce que tu vois le texte, Madame Ananda? Non, hein, parce que je n'ai pas affiché le texte. Attends une minute, je ne sais pas si on va marcher comme ça. Puis j'ai pas fait de partage d'écran. Oh boy. Sure. Yes. Bon, là, ça va être un peu compliqué que je mette ça en ligne, là. Bon, on va laisser faire. Virginie, veux-tu continuer à lire, s'il te plaît?
Oui, Hare Krishna. Il est donc très important de saisir que dans la conscience de Krishna, il ne s'agit pas seulement de se contenter d'une connaissance minimale de Krishna, comme savoir le nom de sa demeure. Non, il s'agit d'embrasser de tout cœur tout un mode de vie conscient de Krishna. À vrai dire, il s'agit d'accepter dans son ensemble et de façon pratique la civilisation védique, laquelle est entièrement centrée sur la réalisation spirituelle. La réalisation spirituelle veut que Krishna est apprécié comme le centre et propriétaire de tout. L'objet est bénéficiaire de tous les sacrifices, l'ami et bienfaiteur le plus intime de chacun. Cette civilisation est la seule d'ailleurs qui puisse rendre un homme vraiment civilisé, le rendant capable de surpasser ses tendances animales dues au fait d'engager ses sens comme il se doit dans le service de dévotion. C'est cette acceptation et mise en pratique de tout cœur qui nous assurera de comprendre toujours davantage tout ce qui entoure Krishna, jusqu'au point de désirer sincèrement retourner auprès de lui dans son royaume spirituel et absolu. À cette fin, le cœur doit être libéré de toute intoxication engendrée par un attachement au concept corporel de l'existence. En cet âge, le chant des saints noms est particulièrement recommandé pour purifier notre cœur de toute infection matérialiste.
Jai, merci. Est-ce que des questions, des commentaires? Alors, c'est très important, là, l'avant-dernière phrase, page 161, ligne 3. À cette fin, le cœur doit être libéré de toute intoxication engendrée par un attachement au concept corporel de l'existence. Et ça, c'est le problème. Est-ce que tout le monde s'identifie avec son corps matériel et non en tant qu'âme spirituelle? Et C'est le nœud. Le nœud de l'attachement à la matière, c'est justement de s'identifier à la matière, de se croire un produit de la matière. Alors, que faut-il dire, par exemple, quand vous avez affaire à soi-disant des scientifiques ou des informations soi-disant scientifiques qui disent que, qui prennent pour acquis que la vie, c'est un produit de la matière. Ça tient absolument pas debout. Comme Prabhupada dit, la vie vient de la vie. Ça prend des parents vivants pour faire des enfants vivants. Alors, quand, justement, s'il y a la naissance d'un enfant et l'âme quitte le corps, ben, c'est adieu, il n'y a plus de vie, là. C'est un corps matériel, c'est tout. Alors.
C'est la conscience qui est le signe de l'âme dans le corps. S'il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Donc on peut pas, moi j'ai fait des études scientifiques, mais j'ai jamais pu comprendre qu'on puisse envisager que quelque chose qui est aussi, enfin c'est spirituel la conscience.
Ouais.
Quand le mental, mais la conscience c'est en fait pour moi le lien entre le c'est vraiment quelque chose qui est, si elle n'y a pas de conscience, il n'y a pas de vie. C'est pareil pour les végétaux, c'est pareil pour tout. Donc,
Exactement.
comment on peut imaginer que c'est un agrégat d'atomes que vient l'origine de la vie? C'est impossible.
Ouais, c'est impossible. C'est deux types d'énergie complètement différents. L'énergie matérielle est inerte et l'énergie spirituelle est toujours en mouvement. C'est la vie.
C'est la vie.
Et elle est faite d'éternité, de connaissance, de félicité. Et dans l'état conditionné, cet état-là est recouvert par des sens matériels et c'est l'ignorance. L'influence de l'ignorance, l'influence de la passion. Et s'il reste un petit peu de vertu, ben tant mieux. Et c'est le conditionnement matériel. Alors, tous les êtres luttent, comme Krishna dit dans la Bhagavad Gita, tous les êtres luttent âprement avec les sens, ce qui inclut aussi le mental. OK. Bon. Veux-tu continuer, s'il te plaît?
8.2. Ainsi que l'indique la Bhagavad Gita, 8.20, chapitre 8, verset 22, le seul moyen de l'approcher est le pur service de dévotion. Voici le verset en question. Purusha,
saute le sens.
D'accord. La dévotion pure permet d'atteindre Dieu, la personne suprême, lequel est supérieur à tous, au fils de Prita. Bien qu'il vive toujours en son royaume, il pénètre en toutes choses et en lui tout repose. Teneur et portée. Ce verset dit nettement que la destination ultime, le lieu d'où l'on ne revient pas, est la demeure de Krishna, la personne suprême. Lieu, ajoute la Brahmacharita, où tout est félicité spirituelle, Ananda, Chinmaya Rasa. Les formes variées qu'on y trouve sont constituées de félicité spirituelle. Rien n'y est matériel. Cette diversité est une émanation du Seigneur suprême. Car, comme l'enseignait le septième chapitre, tout y est fait d'énergie spirituelle. C'est là que réside éternellement le Seigneur, bien qu'il soit également omniprésent dans notre univers à travers son énergie matérielle. Il est donc partout, simultanément, tant dans les univers matériels que spirituels, par le biais de ces deux énergies. Yashyanta Stani signifie que tout est en lui, en son énergie matérielle ou spirituelle. Ce verset rappelle en outre, avec le mot Bhaktia, que seule la Bhakti, le service de dévotion, peut donner accès aux planètes Vaikuntha, ou la demeure suprême du Seigneur. Dans la Gopala Tapani Upanishad 3.1.21, les Védas décrivent la personne divine et son séjour suprême. Eko Vashi Sarva Gaha Krishna. Dans le royaume spirituel, il n'existe qu'un seul et unique Dieu. divinité miséricordieuse suprême dont le nom est Krishna. Mais pour régner sur chacune de ces planètes, il s'est multiplié en des milliards de manifestations plénières, toutes dotées de quatre bras et portant différents noms, Purushottama, Trivikrama, Keshava, Madhava, Aniruddha, Hrishikesha, Sankarsana, Pradyumna, Shridhara, Vasudeva, Damodara, Janardana, Narayana, Vamana, Padmanabha, etc. Les Védas comparent le Seigneur à un arbre portant toute une variété de fruits, de fleurs et de feuilles. La Brahma Samhita 5.37 confirme elle aussi que tout en résidant dans sa demeure suprême, Goloka Vrindavan, le Seigneur est partout présent pour veiller à la bonne marche de l'univers entier. Goloka Eva Nivasati Akilatma Bhuta. Comme l'indiquent les Védas, Svetasvatara Upanishad 6.8, Parashya Shaktir Vivideva Shuyate, Svabhaviki Gyana Bala Kriyacha. Bien que le Seigneur soit très loin en raison de leur extraordinaire omniprésence, ces énergies résistent de façon systématique et sans la moindre erreur l'entière manifestation cosmique.
Ah, merci beaucoup. Je dois m'absenter. Je reviens, c'est pas long. Un moment.
Hare Krishna.
Excusez-moi. Allô? Okay. Allez, bon.
Allez,
Ah,
bon.
j'ai. Alors, voilà. Alors, pour un dévot de Krishna, Prabhupada explique, il n'y a que Krishna qui existe. Comme c'est dit dans le Srimad Bhagavatam ou Vedanta Sutra, Janmadyasya Yataha, à savoir que la vérité absolue, c'est de qui tout émane. Alors, comme c'était dit ici, il y a l'énergie matérielle, l'énergie spirituelle. Ces énergies, bien que le Seigneur soit très loin en raison de leur extraordinaire omniprésence, ces énergies régissent de façon systématique et sans le moindre erreur, sans la moindre erreur, l'entière manifestation cosmique. Dans le livre de Krishna, Prabhupada explique la différence entre les démons et les dévots. Et à savoir que les démons sont intéressés par l'énergie de Krishna. Mais les dévots, eux, sont intéressés par la source énergétique. C'est Krishna lui-même, la source de tout ce qui existe. Alors, il y a une grande différence de mentalité. Une mentalité, c'est exploiter, exploiter, sans tenir compte de l'origine ou de la source de tout ce qui existe. Et ce qui rend les gens, le moins qu'on puisse dire, c'est très égoïste et très compétitif les uns envers les autres, parce qu'ils comprennent pas la source originale de tout ce qui existe. Et tout le monde s'attribue le mérite de ce qu'ils font, et tout le monde se pense propriétaire de ce soi-disant ce qu'ils ont, tandis qu'en réalité, rien n'appartient à qui que ce soit, tout appartient à Dieu, et personne n'est un maître. Tout le monde est un serviteur par sa propre nature. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Qu'on sache ou qu'on sait pas, on est tous direct ou indirectement des serviteurs de Krishna. Le monde qui pense qu'ils sont en train de se servir, dans le fond, il n'y a rien d'autre que Krishna. Ils servent Krishna, mais ils sont tellement dans la brume qu'ils voient pas la vérité. Ils voient qu'est-ce que leur sens leur permet de concevoir. Ils sont pas dans la vérité éternelle, qui est toute l'énergie transformée de l'énergie divine.
Ouais,
On vit
exactement.
dans le fond, tout est la volonté de Krishna. On vit dans sa volonté. Et on peut changer par nos désirs.
Ouais.
Parce que Krishna te donne de dire les désirs. Alors, si tu veux servir la matière, comme on dit, Krishna te permet, ou si tu veux servir Krishna, Krishna te permet. Alors, nos désirs, c'est le volant de nos directions de matériel, physique.
Oui, on peut dire les désirs, le désir ou les désirs, peu importe. C'est la, la comment on dit ça donc? C'est l'architecte de notre destinée. Alors, selon nos désirs, les désirs vont déterminer notre destinée. Alors, en dépendamment de nos désirs, notre futur sera en conséquence. Alors, si on désire Krishna, ben on va être auprès de Krishna. Et pour ça, ben ça prend beaucoup de pureté et beaucoup d'association des purs dévots de Krishna qui s'en vont eux aussi à Krishna.
Alors, au présent, on est la réflexion de nos désirs du passé. Le présent, je suis tous mes désirs qui est en ce moment, et je construis mon futur au présent qui m'emmène où je suis au présent dans mon futur. Je sais pas si
Oui, on comprend. C'est exactement ça.
Puis de servir Krishna, c'est pas compliqué. Puis en même temps, c'est compliqué. Parce que l'illusion est tellement forte que dit, hey, regarde ici, toi, hey. Tu sais? Si on peut passer par-dessus le dérangement, on est dans la conscience de Krishna parce que tout est Dieu. Il est partout, dans nos sens, dans nos pensées. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. C'est que de la volonté divine.
Tout est mal si c'est pas lié à Krishna,
C'est
mais tout
ça.
est bon si c'est lié
Ouais.
à Krishna.
C'est ce que j'allais dire, parce qu'avec ça, tu fais, regarde, aujourd'hui, j'utilise la planète Terre à des fins de destruction pour juste sans faire du business, quoi. Et c'est pas du tout tourné vers Krishna. Donc, tant qu'une activité, elle est pas tournée vers Krishna, elle est pas propice, en fait.
Exact.
Mais en même temps, tout qu'est-ce qu'on vit, c'est l'écrivain, c'est Krishna, avec nos désirs, ça qui a été modifié un peu. Mais tout, c'est la volonté de Dieu, tout. On vit dans le scénario qu'il a écrit pour nous, il a produit, il a dirigé, puis il est l'acteur en même temps. Puis quand on voit quand je vois le monde de dualité, c'est que je suis plus dans la vérité éternelle.
OK. Peux-tu répéter la dernière phrase?
Mais si je juge
Oui.
n'importe quoi qui se passe autour de moi, alors je suis dans la dualité. Dans la vérité, c'est la contemplation. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Tout se passe, que ce soit bien ou mal, par la volonté divine. Alors le jugement, il ne devrait pas être dedans, de juger. Ça, c'est beau, ça, c'est laid. Lui est bon, lui est pas bon, moi.
Ouais, disons, Prabhupada, il explique, en tout cas, je sais, Prabhupada dit que ce soit bon ou ce soit mauvais, ça vient de Krishna aussi. Alors, Krishna est à l'origine. Et comme Prabhupada explique aussi, dans le monde matériel, si on veut comprendre quelque chose, c'est en fonction de dualité. Alors, comme Prabhupada dit, on peut pas comprendre le bien si on n'a pas le mal pour comparer aussi. Et comme le Prabhupada donne l'exemple aussi du chaud et du froid. Si on sait pas c'est quoi ni un ni l'autre, on peut pas faire de comparaison. Il faut, pour savoir qu'est-ce qui est, mettons, faut savoir, mettons, ce qui est chaud. Si on connaît le chaud, on va connaître aussi le froid, ça va ensemble. Parce que quand c'est pas chaud, c'est froid. Puis quand c'est pas froid, ben c'est chaud.
Mais
Alors,
les deux, c'est des expériences sensorielles.
oui, il y a des expériences sensorielles, mais bon, ça c'est limité, si on peut dire. C'est limité dans le sens que ce qui dépasse l'expérience sensorielle, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Si pour nous, ça nous dépasse. Comme par exemple, Prabhupada donne l'exemple du soleil. Si on juge avec nos sens, le soleil, c'est un petit disque dans le ciel. Par contre, il dit, si on veut apprendre plus sur le soleil, il faut consulter des livres sur le soleil. Alors, que faut-il dire? Par exemple, parfois la NASA nous arrive avec des photos, que ce soit les Américains ou Russes ou qui que ce soit qui est dans le domaine de l'astronomie. Parfois, tu vas avoir des images du soleil. Prise à grande distance, c'est une immense planète de feu, pratiquement parlant. Et ça dépasse notre expérience sensorielle, mais ça veut pas dire que ça n'existe pas. Tu sais? Quelqu'un peut dire, oh, moi je crois, moi je ne crois pas, mais ce qui existe vraiment, c'est là. Alors, En ce qui concerne Krishna, ben, qu'est-ce qui est dit sur Krishna? Ben, c'est Krishna lui-même qui le dit dans la Bhagavad Gita. L'eau, la terre, le feu, l'air, les terres composent son énergie inférieure. Il y a, plus subtil, il y a le mental, l'intelligence, le faux ego. Eux autres aussi, c'est des éléments matériels. Et c'est de Krishna qu'on apprend ça. Et ça dépasse notre perception sensorielle, mais parce que on est Vaishnava veut dire quelqu'un qui accepte les Védas, ben on accepte cette connaissance. Une connaissance qui est parfaite, une connaissance qui nous est donnée par Vyasadeva dans les écritures védiques. Il n'y a pas d'imperfection, c'est une âme libérée qui écrit là. Alors, Shastra Chakshu, voir les choses en fonction des Écritures. Alors, comme on a lu aussi aujourd'hui, là, selon Chanakya Pandit, on a lu la citation. Si on a affaire à quelqu'un qui est rusé, on doit être aussi rusé. C'est ça qu'il dit, Chanakya Pandit. Alors, c'est comme ça, la Bhagavad Gita aussi. Duryodhana, Dhritarashtra, c'était des, si on peut dire, surtout Duryodhana, un fin renard, très rusé. Ils ont essayé d'éliminer les Pandavas par, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient quand les Pandavas étaient en exil dans la forêt. Ils n'ont pas été capables. C'est eux qui ont fixé les règles. Les règles, à savoir, les Pandavas ont perdu le match de dés, et ils ont fixé, ah, il faut qu'ils soient exilés pendant 13 ans. Et la dernière année, il faut qu'ils vivent incognito. C'est-à-dire, personne ne doit savoir qui ils sont. Et s'ils sont découverts dans la dernière année, le cycle recommence. Un autre 12 ans. Ainsi de suite. Alors, ils ont mis les conditions. C'est pourquoi Krishna était conscient de tout ça. Ben, Krishna a toujours été conscient. C'est tout ce qui se passe. Alors, quand Arjuna veut refuser de combattre, pour Krishna, il n'en est pas question. Parce que le parti opposé a voulu les éliminer par toutes sortes de façons, tellement de fois. Et la pire chose qu'ils ont pu faire, c'est d'insulter Draupadi en voulant déshabiller Draupadi en public. Et Draupadi, c'est une pure dévote de Krishna. Et Krishna ne pardonne pas les offenses aux purs dévots, aux purs dévotes. Alors, juste là, en partant, Prabhupada dit ça, c'était un prétexte pour que survienne la bataille de Kurukshetra. Alors, Krishna, lui, c'est la justice suprême, Prabhupada dit. Alors, il voulait établir cette justice suprême, à savoir éliminer les mauvais éléments et établir ses dévots. Et c'était le plan de Krishna. Alors, c'est ça qui est de difficile à avaler pour les âmes conditionnées, parce que de un, ils savent pas qu'il y a un contrôleur suprême qui vraiment gère absolument tout, au moindre détail, et si elles l'acceptent, ne savent pas trop comment ça marche. Et deuxièmement, si ce contrôleur suprême-là est une personne, c'est-à-dire une personne, c'est-à-dire il y a une volonté, il y a des désirs, il y a des... C'est comme une vraie personne. Alors Krishna, lui, avait son idée de fait déjà, sa mission était déjà, disons, établi dans son esprit, si on peut dire, que c'était ça qu'il fallait qu'il se passe. Et là, en plus, c'est pas que Krishna n'a pas essayé de faire qu'il n'y ait pas de guerre. Krishna a démontré la forme universelle à Duryodhana, plusieurs formes de forme universelle. Duryodhana ne voulait rien savoir. Son idée était faite, il faut qu'il aille le combat, et par-dessus, il pensait que, ah, Nos armées sont beaucoup plus nombreuses que l'armée des Pandavas. Pourquoi on gagnerait pas? Ça, c'est la mentalité. Tu regardes le matériel. Tu fais une estimation matérielle. Tu penses, ah, ça se peut. Donc, comme ils sont forts aujourd'hui dans la société pour dire statistiquement parlant. Selon les statistiques, il va arriver ci, il va arriver ça. Là, ils vont même te donner le pourcentage en statistiques quand ça arrive, quand ça arrive pas. Là, ils vont dire, mettons à 80% des statistiques, c'est sûr que ça va pencher de tel côté. Alors, Duryodhana avait cette mentalité-là, là. Notre armée est beaucoup plus grande. On est dirigé par Bhishma Dev, par Dronacharya. Et même, dans le premier chapitre, Duryodhana met en garde Bhishma Dev et Dronacharya de ne pas faire preuve de sentimentalité ou de faiblesse de cœur par rapport à Arjuna. Mais ce qu'il a oublié, ce qu'il a oublié le principal, c'est que Krishna est de l'autre côté. Et Krishna a dit qu'il n'allait pas toucher aux armes, qu'il ne combattrait pas, mais même à ça, sans que personne le sache, c'est dit aussi dans le Bhagavatam, quand Krishna a regardé, a posé son regard sur les armées assemblées, qui avaient déjà décidé, ils sont tous morts d'avance. C'est la puissance de Krishna. C'est lui qui décide de la vie et de la mort des êtres vivants. Alors, c'était son plan. Alors, Krishna dit à Arjuna, combat, tu ne peux qu'être un instrument dans mes mains. Parce que le combat est déjà conclu. Alors, ça, c'est la conscience de Krishna.
Alors, c'est des soldats de plomb que Krishna joue avec. Ah, vous êtes tous morts, hein?
C'est ça. Alors, pour un dévot, le dévot, lui, est dans l'expectative, à savoir, quelle est la volonté de Krishna? Je vais accepter la volonté de Krishna. Et entre-temps, mais comme Madhavananda dit, c'est toute l'énergie de Krishna. Il n'y a rien que l'énergie de Krishna. Et c'est comme ça. Mais il y a un lien avec la personnalité, la personne même de Krishna pour un dévot. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
En fait, Duryodhana, il considérait, même il vivait en compagnie de Krishna, à l'époque de Krishna, il ne considérait pas Krishna comme Dieu, la personne suprême. Donc c'est
Exactement.
tout simplement ça, en fait. Le camp d'en face, même si parmi eux, dans le camp d'en face, il y en avait qui connaissaient Krishna dans sa vraie nature, mais ils étaient pris au piège de leurs conditions matérielles, en fait. Ils ont décidé d'aller dans le camp de Duryodhana, automatiquement, ils étaient déjà morts.
Ouais. Alors, Prabhupada disait à l'époque, il y avait les Pandavas qui savaient que Krishna était Dieu, la personne suprême. Et le reste, la grande majorité, pensait que Krishna est juste un homme ordinaire.
C'est ça.
Et, tu sais, c'est comme, comme Prabhupada dit, s'il y a des fausses incarnations dans l'âge de Kali, il y en a. Ben, à ce moment-là, il faut, et quand Krishna vient, il vient pour démontrer c'est quoi Dieu? Quelle est sa puissance? Qu'est-ce qu'il est capable de faire que les autres ne sont pas capables de faire? Alors, comme Prabhupada dit, si on rencontre une fausse incarnation de Dieu, on peut lui demander s'il est capable de soulever la colline de Govardhan. Alors, s'il n'est pas capable, comme Prabhupada dit, Krishna, lui, soulever la colline de Govardhan, c'est rien. Il soutient dans l'espace des milliards de planètes. Alors, que faut-il dire, cette petite colline de Govardhan, c'est rien du tout pour lui. La maintenir pendant une semaine sur son petit doigt, il n'y a rien là. C'est Krishna. Krishna a une puissance infinie. Alors, c'est pourquoi Krishna, quelqu'un qui connaît Krishna, ne peut qu'être attiré par Krishna. Avoir de l'amour, de l'attachement pour Krishna. C'est le plus séduisant, le plus fort, le plus instruit, le plus populaire, le plus renoncé. C'est Krishna. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Non.
OK. Alors, on va arrêter là pour aujourd'hui. Alors, vous direz Hare Krishna à Ananda.
Hare Krishna.
Qui est supposé arriver peut-être dans 5 minutes, on ne sait pas.
Non, c'est Ananda, elle écoutera après, elle m'a dit.
Ouais, elle est...
Donc, elle l'entendra directement, le Hare Krishna.
C'est ça, on lui dit Hare Krishna.
Hare voilà. Krishna, Ananda.
OK.
Merci, merci pour votre présence. Hare
ouais,
Krishna,
Hare
dans
Krishna.
Deux semaines.
Ah oui, merci.
Dans
Merci.
Deux semaines. Mm-hmm. Merci beaucoup, Hare Krishna.
Hare Krishna,
Hare Bon.
Hare Bon. Faites une excellence.
Oui, Jai. Hare Bon.